Bonjour. Voilà, alors le titre de mon message, c'est La volonté de Dieu. Ça pourrait être ça, c'est un titre simple. Et j'aimerais juste qu'on considère quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Et donc, j'aimerais démontrer aussi, ou essayer de démontrer que la volonté de Dieu, ce n'est pas des choses concrètes, nécessairement. C'est pas, voilà, il faut que tu fasses ça, ou il faut que tu arrêtes de faire cela, ou il faut que tu commences à faire ceci ou cela. La volonté de Dieu, eh bien, c'est l'Esprit de Dieu. Et donc, ce qu'on a besoin de faire, si on veut marcher selon la volonté de Dieu, si on veut faire la volonté de Dieu, eh bien, c'est de recevoir l'Esprit de Dieu. Et ça va rejoindre plusieurs choses qui ont été dites ce matin. Alors j'aimerais commencer juste en regardant un peu certains versets, et vous pouvez tourner, mais sinon vous retenez les passages et vous lisez chez vous. C'est important d'étudier aussi la parole et les versets en détail, juste pas les lire, mais les creuser, n'est-ce pas? Et dans Jean chapitre 6, Jésus parle de la volonté de Dieu et il définit la volonté de Dieu. Donc voilà la première chose que l'on doit faire quand on veut faire la volonté de Dieu, c'est de voir la définition de ce que c'est la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Quand on prie le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cette prière est prononcée ou cette parole est prononcée des millions de fois par an dans le monde. Et si on demandait à chacune des personnes qui a prononcé ces paroles, c'est quoi la volonté de Dieu? Je pense qu'un pourcentage considérable ne pourrait pas répondre à cette question. Quelle est la volonté de Dieu? Que ta volonté soit faite, et on dit c'est quoi la volonté de Dieu? Oh, je sais pas. C'est très frappant de ça. On doit, si on prie que ta volonté soit faite dans ma vie, on doit voir ce que c'est la volonté de Dieu. Et vous avez la définition donnée par Jésus, on ne pouvait pas mieux. N'est-ce pas? On ne pouvait pas mieux avoir comme citation. Quelquefois, on cite un prédicateur, un homme de Dieu, une femme de Dieu, qui a écrit un livre extraordinaire qui montre une profondeur de vie, et c'est une référence quasi sûre. Mais là, on a pas, c'est même pas un apôtre, c'est Jésus lui-même, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même qui donne la définition. 6:39. Alors, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le relève au dernier jour. La volonté de mon Père, en effet, c'est que quiconque voit le Fils et met sa foi en lui et la vie éternelle, et moi, je le relèverai au dernier jour. Et surtout le verset 40, c'est que quiconque voit le Fils et met sa confiance ou sa foi en lui est la vie éternelle. Donc voilà, ça rejoint notre fameux verset évangélique de Jean 3:16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, n'est-ce pas, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais quelquefois on dit, voilà, j'ai fait de l'évangélisation, donc j'ai fait la volonté de Dieu, parce que le Seigneur a dit, allez par tout le monde, n'est-ce pas, annoncer la parole de Dieu, ou bien j'ai fait ce qui est bien, parce que c'est dans la volonté de Dieu de faire de l'évangélisation. Mais ce n'est pas ce qui est dit ici. Je n'ai pas dit que l'évangélisation ne doit pas se faire. Ce que je dis, c'est que la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on fasse de l'évangélisation. La volonté de Dieu, c'est que ceux qui voient le Fils, Jésus, et qui mettent leur foi en lui, soient sauvés. Alors, quelquefois, on fait de l'évangélisation et on dit, voilà, les gens, ils sont pas intéressés du tout par l'évangile. Maintenant, vous savez, le monde, il s'intéresse au monde, il s'intéresse pas. La question qu'il faut se poser, il faut pas reprocher ça aux gens qui s'intéressent pas. La question, c'est est-ce que lorsque vous avez fait de l'évangélisation, est-ce qu'ils ont vu le Fils? Parce que Jésus, lorsqu'il faisait de l'évangélisation, les gens voyaient le Fils. Vous ne pouvez pas avoir meilleure image, n'est-ce pas, du Fils de Dieu, puisqu'il était lui-même le Fils de Dieu. Est-ce que lorsque l'on parle à quelqu'un, les gens voient Jésus? C'est pas, ça rejoint beaucoup ce qui vient d'être dit juste avant. Et là où les gens prennent une décision grave, c'est lorsqu'ils voient Jésus en vous et qu'ils ne mettent pas la foi en Jésus. C'est-à-dire lorsqu'ils rejettent Jésus. Mais quelqu'un qui ne voit pas Jésus en vous et qui rejette ce que vous dites, pardonnez-moi, mais je pense qu'il n'est pas coupable. Il n'est pas coupable devant Dieu, parce qu'il n'a pas vu Jésus. Là où on devient coupable, c'est lorsque l'on voit, lorsque Jésus est manifesté. Je ne parle pas de l'aveuglement des gens, je parle de lorsque Jésus est manifesté comme Jésus l'était sur la terre, et que les gens néanmoins rejettent Jésus, rejettent la foi en Dieu. Donc c'est ça la volonté de Dieu, c'est de pouvoir manifester sur la terre la personne de Jésus-Christ. Voilà ce qu'est la volonté de Dieu. Parce que si on cherche à faire la volonté de Dieu, déjà la traduction française est terrible, faire la volonté de Dieu. Attends, Dieu, ne t'inquiète pas, je vais faire ta volonté. Je vais fabriquer ta volonté. Mais non, la volonté de Dieu existe. Elle existe en dehors de nous. Il n'a pas besoin des hommes pour faire sa volonté, puisqu'elle est faite en lui. Et on tourne en rond souvent dans notre raisonnement. Je vais faire la volonté de Dieu. Et c'est quoi la volonté de Dieu? Ben, c'est que je fasse sa volonté. Alors imaginez si vous avez des enfants, vous dites à votre enfant, il faut que tu fasses ma volonté, il faut que tu fasses ce que je te dis, ou il faut que tu fasses ma volonté. Et l'enfant dit, et quelle est ta volonté? Ben, ma volonté, c'est que tu fasses ma volonté. Il y a beaucoup de choses comme ça, n'est-ce pas? Si je demandais chacun d'écrire une définition de la volonté, de ce que c'est la volonté, beaucoup d'entre nous, on écrirait la volonté de Dieu, c'est de faire ce que Dieu veut. C'est-à-dire, on définit la volonté par la volonté. Et on tourne en rond, on ne sait pas où on va. Mais la volonté ici, c'est que chacun soit sauvé. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Est-ce que vous savez que Dieu vous aime et qu'il veut vous sauver? Il veut que chacun soit sauvé. Il veut que le Fils soit manifesté sur la terre, que Jésus soit manifesté sur la terre et que chacun soit sauvé. Des deux sœurs, Marthe et Marie, il y en avait une qui avait compris quelle était la volonté du Père et l'autre n'avait pas compris ça. Parce que Marthe était là à accueillir Jésus en disant, je vais faire un repas pour toi. Parce que je sais que tu dois avoir faim. Je sais, je décide que ta volonté, c'est d'avoir un bon repas, c'est de bien manger, c'est d'être bien accueilli, parce qu'il faut bien accueillir. Et elle s'est énervée en disant, ah, ma sœur, elle fait rien, elle est assise. C'est vrai, Marie, à chaque fois, Marie de Béthanie, à chaque fois qu'on parle de, à chaque fois que les évangiles parlent d'elle, ils disent, elle était assise. Franchement, c'est quand même troublant ce genre de personne, n'est-ce pas? Donc elle était assise quand Lazare était mort. Il est dit qu'elle était assise à la maison. Marthe, au moins, elle avait couru au devant de Jésus pour l'accueillir, parce que l'accueil, c'était la spécialité de Marthe. Ensuite, quand Jésus était venu chez eux, Marthe était dans la cuisine en train de faire un repas et Marie était assise au lieu de mettre la table, au lieu d'aider sa sœur, etc. Elle était assise au pied de Jésus pour l'écouter. Et ensuite, on la voit, oh, pas vraiment assise, mais dans Jean chapitre 12, je pense, c'est ça, au début du chapitre 12, on la voit au pied de Jésus en train de verser du parfum. Mais on pourrait dire, c'est quoi cette femme? Assise tout le temps. Elle n'a même pas conscience que sa sœur est débordée, qu'il faut l'aider. Ensuite, Si elle est assise tout le temps, elle ne doit pas gagner beaucoup d'argent, elle ne doit pas ramener beaucoup d'argent au foyer, et elle va acheter du parfum très cher qu'elle dépense pour répandre sur les pieds de Jésus. Mais c'est elle qui incarnait la volonté de Dieu avec Jésus. Elle avait compris quelle était la volonté du Père. Marthe ne l'avait pas compris. Marthe n'avait pas du tout compris. Même quand Jésus est venu pour ressusciter Lazare, elle a cru qu'il parlait de la résurrection, n'est-ce pas, au dernier jour. Mais Marie avait compris quelle était la volonté du Père. Est-ce que nous avons compris que la volonté de Dieu, ça n'est pas qu'on fasse ceci, fasse cela, fasse cela. C'est qu'on soit dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que le Fils va se manifester en nous. C'est là que Dieu commence à se manifester. Et ainsi, après cela, ou en même temps que cela, on peut se présenter devant les hommes et les femmes de ce monde et leur parler de Jésus-Christ. Parce qu'ils vont voir Jésus-Christ en nous, ce qui veut dire que nos paroles seront conformes à ce que nous manifestons. Et là, il y aura des gens qui vont se donner au Seigneur. Là, il y a des gens qui vont donner leur vie au Seigneur, tout de suite. Il y a des gens qui vont s'opposer à nous violemment, qui vont vouloir nous mettre à mort. Mais on n'a ni l'un ni l'autre, parce qu'on est pile au milieu, parce qu'on est tiède. On n'a pas les gens qui tombent à genoux, n'est-ce pas, devant Dieu, parce qu'ils voient nos vies. On n'a pas ça. Ah, peut-être vous l'avez, alors vous venez me corriger après en disant, moi j'ai vu ça, je connais ça. Mais moi je ne le connais pas. Je ne vois pas que les gens sont amenés à la repentance, sont amenés à Jésus-Christ simplement en me voyant. Et on n'a pas les gens qui disent, toi je vais te mettre à mort parce que tu manifestes Dieu, parce que tu es le Fils. Tu es un fils ou une fille de Dieu. C'est pour ça qu'on est tranquille. Et c'est pour ça qu'on est beaucoup comme Marthe, n'est-ce pas, en train de dire, Seigneur, je fais tout un tas de choses pour toi. Est-ce que tu peux reprendre un petit peu, corriger? Parce qu'elle est en train de dire à Jésus aussi ce qu'il devait faire, n'est-ce pas? Et c'est exactement nos prières. Seigneur, fais ceci, fais cela. Seigneur, fais ceci et fais cela pour moi, parce que je pense que c'est ça ta volonté, parce que je sais que c'est ça ta volonté, et parce que je décide que c'est ta volonté qui doit être ça. Autrement dit, vous êtes en train de dire à Dieu que ma volonté soit faite dans le ciel, comme elle est faite sur la terre par moi et par ceux qui me connaissent. Mais c'est grave, on est en train de blasphémer. Et c'est pour ça que dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul dit que c'est à cause de cela que le nom de Dieu, c'est à cause de vous que le nom de Dieu est blasphémé. C'est pas à cause du monde que le nom de Dieu est blasphémé. C'est à cause des gens qui se disent chrétiens et qui ne manifestent pas la vie de Christ. Et c'est en cela qu'on doit chercher cette présence de Dieu. On doit chercher la communion avec Dieu pour pouvoir accomplir sa volonté. Et sa volonté, c'est quoi? Eh bien, sa volonté, c'est tout simplement que nous soyons comme Jésus sur la terre. Jésus n'est plus là. Si vous parlez aux gens en France de Jésus, eh bien, ils savent pas qui c'est. On a interrogé des gens concernant Jésus, quelle époque vous le situez? C'est une question piège, n'est-ce pas? Puisqu'on est en 2016 après Jésus-Christ. Donc, à quelle époque il y en a qui l'ont situé au Moyen-Âge? Les plus instruits vont situer à l'époque des Romains, on va dire, bon, à l'époque des Romains, voilà, bon, c'est vague, hein, parce que les Romains, il y en a toujours. Hein, 20, 2016, vous allez à Rome, vous voyez plein de Romains. Donc voilà, c'est vague l'époque des Romains. Et si on dit, allez, l'époque des Romains, c'est quand? Pff, il y a longtemps. Vous parlez de Jésus autour de vous, ils ne connaissent pas Jésus. Et alors vous allez dire, on va se dire facilement, mais c'est honteux, les gens ne connaissent pas Jésus. Les gens ne veulent pas entendre parler de Jésus. Mais bien sûr, comment peuvent-ils savoir qui est Jésus-Christ, à moins de rencontrer Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et comment peuvent-ils rencontrer Jésus-Christ alors que Jésus-Christ est au ciel? Certes, il se révèle à certaines personnes de manière miraculeuse, mais il peut rencontrer Jésus-Christ, les gens peuvent rencontrer Jésus-Christ quand ils rencontrent les gens qui ont l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous voulez recevoir, est-ce que je veux recevoir l'Esprit de Dieu ce matin? Pour que autour de nous, autour de moi, les gens puissent voir Jésus-Christ. Et c'est tout ce que l'Évangile demande. Comme a dit Alex, c'est tout, c'est ça que Dieu demande, que l'on représente Jésus-Christ sur la terre. Vous savez ce qui est écrit dans Hébreux 10, Jésus en venant dans le monde a dit, tu m'as donné un corps afin que je fasse ta volonté. Voilà comment s'accomplit la volonté de Dieu sur la terre. C'est qu'il cherche des corps. Il cherche des corps dans lesquels il peut manifester sa volonté. Et quelle est sa volonté? On l'a lu. Sa volonté, c'est que les gens puissent voir le Fils, puissent voir Jésus. Voilà ce que Dieu cherche. Voilà le message de l'Évangile. C'est pour ça que dans Jean chapitre 1, il est dit que la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous. D'accord? Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et Dieu est venu sous la forme d'un homme pour que les hommes et les femmes puissent voir Dieu en Jésus-Christ et qu'ils puissent prendre une décision. Soit de le rejeter, soit de l'accepter. Et si vous voulez ça vraiment dans vos vies, eh bien vous rentrez chez vous, vous demandez « Seigneur, je veux ». Mais vous ne le demandez pas juste aujourd'hui. Vous le demandez chaque matin « Seigneur, je veux te représenter ». Seigneur, c'est important que je te représente. Pas que je décide quelle est ta volonté comme Marthe faisait. Mais Marthe, c'était nous. Mais qu'on puisse prier, Seigneur, que je te représente juste. Et quoi qu'il arrive, c'est toi qui vas agir dans la personne, c'est pas moi. Vous savez qu'on peut manipuler des gens pour qu'ils se convertissent. On peut utiliser des stratégies pour que les gens se donnent au Seigneur, entre guillemets. On peut utiliser des stratégies pour que les églises grandissent. On peut utiliser des stratégies pour que des gens se convertissent à l'évangélisme, au mouvement évangélique. Mais on ne peut pas, ça n'a rien, ces stratégies sont diaboliques. Ces stratégies n'ont rien à faire avec Dieu. Parce que c'est Dieu qu'on essaye de manipuler. On essaye d'utiliser Dieu pour faire notre volonté. Et on dit « Ah mais ma volonté elle est très bonne ». Ma volonté, c'est que les gens soient dans le bon chemin. Mais ce n'est pas votre volonté qui doit être faite, c'est la volonté de Dieu. Et il cherche des corps dans lesquels il peut mettre son esprit, qui est la volonté de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Je pense que la volonté de Dieu correspond à l'esprit de Dieu. C'est une force, n'est-ce pas? La volonté, c'est une force qui nous anime et qui nous pousse à produire des comportements, n'est-ce pas, dans une direction ou dans une autre. Eh bien, c'est l'Esprit de Dieu qu'il veut mettre en nous pour que les hommes et les femmes puissent voir le Fils manifesté, puissent voir Jésus manifesté. Dans l'Ancienne Alliance, les corps qui étaient recherchés, c'était les corps des animaux qui servaient pour sacrifice. Mais quand Jésus, dans Hébreux 10, il est dit que quand Jésus est venu dans le monde, il a dit « Tu m'as donné un corps afin que je fasse ta volonté. » Eh bien, Il a dit avant, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Il savait que Dieu ne voulait pas ça. Ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne se limitait pas à des animaux qui meurent. Il voulait plus que des corps d'animaux. Il voulait des hommes et des femmes. Parce que les corps des animaux, il a dit à la création, c'était bon. Mais quand il a fait l'homme et la femme, il a dit, c'était très bon. Et c'est ça que Dieu veut. Il veut que ce soit très bon. Et il cherchait des corps d'humains. Pas pour les sacrifier, mais pour faire sa volonté. Est-ce qu'aujourd'hui, on veut être le corps de Christ sur la terre? Est-ce qu'en tant qu'Église, ici, on veut être le corps de Christ dans cet endroit? Est-ce qu'on fait partie de l'Église universelle qui est représentée par celles et ceux qui, individuellement, dans leur vie de tous les jours, ont la vie de Christ qui les anime. De sorte à ce que vos proches puissent dire de vous, il est comme Jésus, elle est comme Jésus. Pas les gens de l'Église, pas les gens qui vous voient de temps en temps. Parce que quand on voit de temps en temps quelqu'un, on se fait un film alors qu'on n'a vu que des clichés. On a besoin de voir la vie de tous les jours de la personne pour pouvoir savoir si cette personne manifeste le Fils. Et vous savez que l'apôtre Pierre, lorsqu'il écrit ses épîtres, il décrit Jésus d'une manière extraordinaire. Il dit, lui dans la bouche duquel il n'y avait pas de fraude, quand on l'injuriait, il ne répondait pas par l'injure. Alors c'est le test, n'est-ce pas? C'est le test. Simon-Pierre était touché parce que lui, il savait que c'était son problème avant. Comme j'ai dit l'autre fois, il allait avec Christ et il prenait une épée, on ne sait jamais, hein. On ne sait jamais si vous faites de l'évangélisation, prenez un revolver ou un couteau au cas où on vous attaquerait, n'est-ce pas? Et donc l'apôtre, c'était Simon-Pierre avant ça, bien sûr après il était extrêmement courageux. Il s'est laissé mener, Jésus avait prophétisé que ça serait le cas, il s'est laissé mener vers ceux qui voulaient le tuer. Mais est-ce que... quand on est injurié, on ne répond pas par l'injure. Est-ce qu'on bénit ceux qui nous injurent? Je me rappelle un frère tout simple, et on se moquait de lui à l'usine parce qu'il était chrétien. Parce qu'il était chrétien. Et ce frère disait, quand on se moque de moi, je réponds, Alléluia. À haute voix, Alléluia. Il y en a d'autres qui répondent d'autres choses que Alléluia, dans le cœur et dans la bouche. Mais voilà comment on manifeste le Christ. On manifeste le Christ en vivant le fruit de l'Esprit trouvé dans Galates 5, 22. En manifestant ce fruit de l'Esprit en permanence, parce que Jésus le manifestait en permanence. Est-ce que c'est ça que l'on vit? Le problème, c'est qu'on est beaucoup comme Abraham et Sarah, des gens extraordinaires, des gens qui connaissaient Dieu. Et Abraham avait reçu une promesse extraordinaire. Il avait reçu la promesse que lui et sa femme auraient un fils. Que ce Fils se manifesterait en eux. Et ils ont dit, ils en ont parlé à la maison, bien sûr, en couple. Sarah, elle a dit, c'est pas possible. Abraham a dit, non, je pensais bien, quand Dieu m'a dit ça, que ça devrait... Enfin, j'imagine, hein, c'est pas écrit ça. Mais elle a dit, comment est-ce possible, n'est-ce pas? Vu l'âge qu'elle avait, l'âge avancé qu'elle avait. Alors, trouver une solution. Ils ont trouvé une solution, c'est qu'ils ont dit, oui, on va accomplir la volonté de Dieu et on va arranger ça. Donc Abraham est allé vers Agar, qui était jeune, elle, contrairement à Sarah. Parce que effectivement, si une maîtresse donnait à son mari sa servante, le fils qui naissait de la servante pouvait être considéré comme le fils de la maîtresse. Donc effectivement, il y avait du raisonnement derrière tout ça. Mais ils ont accompli pour Dieu la volonté de Dieu selon eux. En disant, ne t'inquiète pas, Seigneur. Je sais que ce que tu as dit, une promesse un peu trop vite, tu t'es pas rendu compte que ce n'est pas possible que ça se réalise, mais on va arranger pour que ta promesse s'accomplisse. Un peu comme si Dieu nous disait, voilà, il va se passer quelque chose dans l'église d'Azrouk, il va y avoir un réveil, n'est-ce pas? Il n'a pas dit ça, hein? D'accord? Mais il va y avoir un réveil. Alors on dit, ah ben c'est bien, on va commencer à faire en sorte qu'il y ait un réveil. Donc déjà, on va commencer à sauter. Maintenant, on se lève déjà pour les chants, c'est pas mal, mais ce matin, c'était. Merci Emmanuel d'avoir précisé que pour toi, parce que moi j'étais dans le cirage aussi, et je pense qu'il y a beaucoup qui étaient difficilement réveillés ce matin. Alors on va commencer à sauter maintenant pendant les chants, on va commencer à danser. Comme ça prépare le réveil, n'est-ce pas? On va faire aussi des réunions de prière qui vont durer plusieurs heures, avec du café, bien sûr, parce que sinon on ne va pas tenir. Et on va commencer à prier pour que le réveil se réalise. On va commencer à aller dans les quartiers. On va commencer à faire ceci pour que ça se réalise. Mais si Dieu a donné la promesse d'un réveil, il va l'accomplir. Et le seul moyen, la seule chose que Dieu veut faire pour faire un réveil, c'est que le Fils se manifeste dans les hommes et dans les femmes. Et c'est le Fils de la promesse, c'est pas Ismaël. Ismaël, c'est la loi. C'est le fait de dire, Seigneur, je veux faire ta volonté, j'ai compris que ta volonté, c'est que je marche droit. Alors je vais obéir à tes commandements. Et puis les commandements de Dieu, on les a dans la tête, on les a peut-être sous le front comme les Juifs avaient. Vous savez, ils tenaient les commandements dans une petite boîte là sous le front. Mais ils les avaient aussi dans la tête, ils les avaient dans le cœur d'une certaine façon. Parce que c'est vrai qu'ils aimaient les commandements de Dieu, ils voulaient les faire. Et quand ils étaient tentés, ils résistaient en disant, je ne vais pas le faire parce que ça va déplaire à Dieu, n'est-ce pas? Ça s'appelait les pharisiens à l'époque. Maintenant, ça s'appelle des évangéliques. Je ne veux pas faire ça parce que ça déplaît au Seigneur. Ou je n'ai pas envie de faire ça, mais je vais le faire parce que ça plaît au Seigneur, parce que c'est la volonté du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas nous faire connaître la loi. Ce n'était pas ça qu'il voulait. Tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice. C'est parce que l'homme a désobéi, c'est parce que l'homme est homme que Dieu a mis la loi, qu'il y a eu toute l'ancienne alliance. Mais si vous lisez dans Hébreux 10, lorsque Jésus dit, tu m'as donné un corps pour faire ta volonté, il est dit tout de suite après, ainsi, il a en quelque sorte annulé la première alliance pour établir une nouvelle alliance. Et quelle est cette nouvelle alliance? C'est de vivre l'Esprit de Dieu, autrement dit la volonté de Dieu, sur la terre, pour que les hommes voient la vie de Dieu en nous. Il a voulu, oui, que Sarah ait un fils en elle, pas un fils à l'extérieur d'elle. Il a voulu que Sarah ait un fils en elle, et c'était lui l'enfant de la promesse. Elle avait beau dire, je vais établir quelque chose qui vient de l'extérieur, donc la loi vient de l'extérieur, et ça sera considéré comme mon fils. Non, c'était en toi, Sarah, que le Fils devait naître. Et c'est en vous que le Fils doit naître. Et vous savez pourquoi c'est important? Parce que Sarah a été qualifiée par l'apôtre Pierre de notre mère. Vous êtes les filles. Il a dit ça aux hommes aussi. Vous êtes les filles de Sarah. L'apôtre Paul a dit que Sarah, c'est la Nouvelle Jérusalem. Et quelle est la Nouvelle Jérusalem? C'est l'Église, n'est-ce pas? C'est l'Église de Christ. Et quelle est l'Église de Christ? C'est le corps de Christ sur la terre. Et le corps de Christ, ce n'est pas celui qui est monté au ciel à l'ascension. C'est vous et moi. Donc c'est Sarah, nous sommes Sarah. Nous sommes les filles de Sarah. Entre parenthèses, Marie aurait pu être jalouse de ça. Marie, la mère de Jésus. Parce qu'elle a dit, c'est moi qui ai porté Jésus, c'est mieux que Isaac. Mais on ne fait pas beaucoup de mention de Marie. Quand une femme a dit, heureuse le sein qui t'a porté, qu'est-ce qu'a répondu Jésus? Il a dit, heureux plutôt celui qui fait la volonté de mon Père. Autrement dit, il a dit ce qui est arrivé à Marie. C'est pas qu'il a dénigré Marie, sa mère. Il n'aurait jamais fait ça. Il n'aurait jamais déshonoré sa mère. Mais il a précisé que l'honneur que sa mère pouvait retirer était identique à l'honneur que peuvent retirer les hommes et les femmes qui font la volonté de Dieu. Pourquoi ça? Parce que la volonté de Dieu, c'est d'avoir Jésus-Christ, de porter Jésus-Christ en nous et de le manifester aux hommes. Exactement ce que Marie a fait. Vous comprenez ça? Ça veut dire que Marie n'a rien eu de plus exceptionnel que vous et moi pouvez avoir. On ne parle plus de Marie, je pense, après acte 1. Dans acte 1, il est mention du fait qu'elle était dans la chambre haute et qu'elle était là, Marie, mère de Jésus, c'est tout. Hop. Après, on ne parle plus d'elle, la pauvre. Pourtant, les gens, il était apôtre, c'est lui qui l'a pris en charge, il l'avait chez elle, il la voyait vivre. Mais il n'a pas dit, ah Marie, vous savez, incroyable cette femme. Non, il n'en a même pas parlé. Pas mentionné. Donc on doit placer les choses, on doit être fidèle à la parole de Dieu. Marie n'avait pas de place plus extraordinaire que vous et moi pouvez avoir. Et c'est Sarah qui est la représentante de l'Église. S'il fallait mettre un prénom féminin, eh bien c'était Sarah qui a été choisie. C'est frappant, n'est-ce pas? Et donc, elle représente l'Église et nous représentons l'Église de Christ sur la terre. Et l'Église est celle qui reçoit l'Esprit de Dieu. C'est les hommes et les femmes qui reçoivent l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Qui sont unis à Christ et qui enfantent Christ. Qui enfantent Christ sur la terre, qui donne naissance à Christ devant les hommes et les femmes, qui donne la vie de Jésus devant les hommes et les femmes. Et c'était ça que Dieu voulait pour Abraham et pour Sarah. C'était ça le plan de Dieu, c'est l'enfant de la promesse. Et je voudrais savoir ce matin si c'est le cas dans nos vies. Est-ce que ce matin on ne voudrait pas dire pour la première fois ou pour la millième fois, Seigneur, révèle-toi à moi dans ma vie. Révèle-toi dans ma vie, dans mon corps, pour que ce que je vis tous les jours soit la manifestation de Jésus. Et c'est ça qui fera que, individuellement, vous devenez l'Église de Christ sur la terre. Et si dans l'Église, il y a plusieurs qui vivent ça, alors l'Église, ici, va devenir l'Église de Christ, une représentation de Christ sur la terre. Voilà ce qui fait qu'une église devient une église. Ce n'est pas le fait d'être évangélique, d'adhérer au protestantisme, d'adhérer à un enseignement biblique correct. Non, c'est d'être sur la terre des représentants de Christ. Et j'aimerais juste terminer par la parabole du, pas du semeur, mais de l'ivraie, que vous trouvez dans Marc, dans Matthieu, chapitre 12 ou 13, j'ai un doute sur le chapitre exact. Et là, il est question de, du blé qui a été semé par Dieu sur le, dans le monde, sur la terre. Jésus dit, la terre, c'est le monde. Et le blé, la bonne semence qui a été semée, eh bien, c'est Dieu qui l'a fait, n'est-ce pas? Et il nous sème sur la terre pour qu'on porte du fruit. Il nous sème dans le monde pour que l'on porte du fruit dans ce monde. Si le grain, Jean 12, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. C'est-à-dire qu'il faut mourir à nous-mêmes pour pouvoir porter la vie de Dieu et porter du fruit. Mais le diable vient, il sème l'ivraie. Et les gens, les serviteurs ont dit, mais est-ce que tu n'as pas semé que du blé? Parce que regarde, le champ, il pousse effectivement des... Mais on est spécialistes, nous, on voit la différence. Déjà, quand il y a juste la tige, on arrive à voir que là, ce n'est pas du blé. Ça ressemble, mais ce n'est pas du blé. Évidemment, autour de nous, c'est ça. Dans les églises, c'est comme ça. Il y a du blé et de l'ivraie. Et ils ont dit, est-ce qu'on ne va pas arracher l'ivraie? Et Jésus a dit non, de peur qu'avec le mauvais, vous n'arrachiez le bon. Voilà la tendresse du Seigneur. Il ne veut pas qu'on commence à dire, voilà, on va enlever ça, ceci, cela. Laissez-le jusqu'au jour du jugement. Mais sachez que si vous n'êtes pas du blé, si je ne suis pas du blé, eh bien on sera arraché au jour du jugement pour être jeté au feu. Le verdict est très clair. S'il vous plaît, prenez-le au sérieux. Ce passage, cette parabole de Jésus est très très sérieuse. Seigneur, ça doit nous pousser à dire, Seigneur, est-ce que je suis vraiment du blé? Est-ce que je suis vraiment la semence qui a porté du fruit, mais la semence que Dieu a semée? Et je serai sur la terre, est-ce que je suis sur la terre, la représentation de la semence de Dieu, c'est-à-dire du Fils de Dieu? Est-ce que je représente Jésus-Christ sur la terre? Si ce n'est pas le cas, alors on est de l'ivraie. On ressemble. Vous savez que les mauvaises herbes ne ressemblent pas à l'ivraie. Les mauvaises herbes, c'est peut-être les gens qui sont, pardonnez-moi pour eux, enfin j'espère qu'ils me pardonnent, sont les gens qui rejettent Dieu, sont les païens. Mais c'est grossier, ça ne ressemble pas du tout au blé. Où est-ce qu'on trouve l'ivraie? On le trouve dans les milieux d'église. C'est ce qui ressemble au blé, mais qui n'est pas du blé. Que Dieu nous protège, n'est-ce pas? Et que Dieu nous conduise à vivre sa vie sur la terre, parce que c'est ça, la volonté de Dieu. Dans Jean chapitre 1, il est dit, concernant ceux qui sont enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà les enfants de Dieu, sont ceux qui sont nés de Dieu, qui sont nés de la volonté de Dieu, nés de l'Esprit de Dieu. Il dit dans Galates que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. Et marcher selon l'Esprit, marcher selon la volonté de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et pas selon la volonté de la chair. Voilà, que Dieu nous aide à vivre, pas seulement l'enseigner, pas seulement le croire, mais le vivre. Amen.